Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs pour moi c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamal.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Will After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. After, la seule émission de radio en France, en direct 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir Daniel Riolo.
Salut les amis.
Et rebonsoir Pierre Ducrot.
Re. Et bonsoir Daniel.
Marseille s'impose donc 3-1. Bien sûr, on va débriefer en longueur la victoire marseillaise face aux Girondins de Bordeaux. Marseille solide deuxième de Ligue 1 après 17 journées. Ça a vraiment du sens de plus en plus. En tout cas, sixième succès consécutif pour les hommes de Villas-Boas. Un victoire 3-1 avec Amavi, Sanson et peut-être un but contre son camp des Girondins de Bordeaux. On verra dans un instant. Yacine Adli avait ouvert le score pour les Bordelais. On parlera également de la victoire rémoise face à l'AS Saint-Etienne grâce à Oudin, Dia, Doumbia et un but de Amouma pour l'AS Saint-Etienne. Et pourquoi pas son temps également. Nantes qui s'impose face à Dijon, 1-0, appelez-nous. Supporters marseillais, bordelais, rémois, stéphanois au 32-16. Le hashtag RMC Live est ouvert également. L'application Direct Studio et également le foot étranger dans un instant. Mais d'abord, l'essentiel, c'est les 3 points. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Le premier autour du résultat pour dire que c'est mérité et que l'OM fait un deuxième très costaud dans ce championnat. Costaud parce que c'est mon deuxième point, cet OM est en confiance et dégage beaucoup de choses très positives. D'abord, l'état d'esprit que Villas-Boas a insufflé à cette équipe, beaucoup de détermination, un état d'esprit très positif qui s'articule autour de joueurs qui sont devenus très importants et qui sont très bons. Payet, Rongier. Rongier est devenu absolument clé dans cette équipe, Morgan Sanson également. On est en train de parler là de joueurs qui sont dans le cœur du jeu et c'est là que se font les équipes.
Tu peux rajouter le petit Camara dans le cœur du jeu qui commence à être.
Je voulais en parler aussi, mais dans un autre geste parce que oui. A priori il devait plus jouer au milieu.
Ouais, mais ce qui permet.
Entendu Villas-Boas ce qu'il a dit cette semaine.
Ce qui permet aux deux cassités, je pense, d'avoir une certaine liberté aussi offensive.
Donc c'est dans le cœur du jeu que ça joue et c'est là que l'OM est très fort et très en confiance. Et puis le troisième point. Pour Bordeaux qui certes a mené 1-0 dans ce match, de façon un peu surprenante à mon sens. Et Bordeaux est à sa place là où il est, c'est-à-dire en bordure du top 5, parce que Bordeaux s'est malgré tout limité par rapport à un OM comme ça. Il y a encore un petit peu de chemin.
Pierre. Le deuxième point, Daniel, va être mon premier point, la confiance marseillaise. Un Marseille qui, en d'autres temps, aurait peut-être lâché après la première période. Et en fait, non, tout l'inverse. Marseille est revenu avec de très, très bonnes intentions et beaucoup de caractère, ce qui leur a permis de logiquement l'emporter. Deuxième point, Villas-Boas. Alors, pour le côté état d'esprit qu'il a su insuffler à cette équipe, je suis d'accord, Daniel. Et puis aussi, aujourd'hui, plus précisément sur ce match-là, pour le choix tactique qu'il a fait. Et puis, troisième point. Tu sais quoi, le fait de recontinuer à represser en début de seconde période sur ces relances courtes, etc. Je pense que c'est une vraie consigne du coach. Ils le font tout le temps, mais je suis pas sûr que les joueurs eu l'idée de le refaire. On développera tout à l'heure tout seul de le refaire tout de suite en seconde période parce qu'ils étaient, je pense, atteints psychologiquement après la première période. Et mon troisième point, c'est Bordeaux qui a fait. J'allais dire la moitié du boulot seulement ce soir, mais c'est un quart du boulot parce que c'est une vingtaine de minutes en première période qui sont intéressantes et après plus rien.
Mais le plan était parfait.
Ouais, le plan était parfait. Oui, si tu le fais tout le match. Quoi.
Parce que
c'est un plan qui est trop restrictif et c'est un plan qui tient en plus à la réussite d'une frappe certes belle, mais qui passe entre les cannes d'un défenseur, qui va frapper le.
Ouais, offensivement, mais défensivement, c'était beaucoup plus cohérent déjà en première période que ça l'a été en deuxième.
Moi, ça reste des choix qui sont très limités. Genre, on attend, on laisse le jeu à l'autre, on le prend en contre. Bon, tu mènes 1-0 encore une fois parce que les circonstances sont très favorables.
Pas complètement, Daniel, parce qu'en première période, alors je suis d'accord avec toi, il y a 20-25 minutes qui sont marseillaises ou Bordeaux oublie le ballon.
Ils arrivent
et il y a un quart d'heure, 20 minutes où Bordeaux récupère la possession, joue un peu mieux, etc. C'est là où ils marquent.
Mais ça reste pas assez entreprenant.
Non, et puis ça reste surtout pas suffisamment consistant sur la longueur pour, voilà, pour inquiéter une équipe comme ça.
Beaucoup de réactions supporters bordelais sur l'hashtag AMCLF qui ne comprennent pas l'obsession bordelaise, tu disais à l'instant, Pierre, de vouloir relancer tout le temps de derrière.
Ah ouais, non, mais...
Même quand ça égalise, même quand t'es mené de buts à 1.
Toutes les équipes le font aujourd'hui, c'est pas obsession bordelaise. Aujourd'hui,
t'as la... ouais, tu peux pas lancer. Quand tu subis, tu peux
pas
lancer.
T'as pas les moyens de le faire et quand t'es sous pression comme ça en début de seconde période, tu dois avoir la lucidité de balancer un ou deux ballons.
Ça aujourd'hui, après, le mec, il a le droit de pas foirer sa relance comme ça, il a le droit de pas la donner à Sanson. Balle.
Ah, mais t'as des avertissements avant aussi. Hein. T'as Pablo qui en donne une très très mauvaise à Costil, ça occasionne le corner, le but. Moi, t'as Pablo qui la met en touche après.
Moi, je défends cette idée parce que la sacoche n'est pas toujours gage de dégagement efficace parce que le ballon te revient tout aussi vite dans la gueule.
Non, mais c'est quand t'as un mec comme en plus comme Madja devant qui faisait quand même un bon match jusque là, tu peux t'appuyer dessus une fois sur deux quand t'es sous pression.
De là où il est,
pas le faire tout le temps, mais
d'aller trouver Madja. Là où il foire sa relance, il doit juste pas rater ça. Il est collé à la ligne, il est pas obligé. Là, c'est nul ce qu'il fait.
Bah, tu sais quoi, Daniel, si c'est compliqué pour un joueur professionnel de mettre un coup du pied dans sa surface à 40 mètres sur un avant-centre.
Bon, je te dis de viser Madja, vu comme il est, il a mieux fait d'essayer de faire une relance propre. Alors encore faut-il qu'il soit capable de le faire.
Appelez-nous, supporters marseillais.
Travailler à l'entraînement pour sortir une relance propre, que de mettre une sacoche.
Ça n'a rien à voir.
Tu ne sais pas sur quoi.
Non, mais et bien sûr.
Et le ballon te revient dans la gueule aussi.
Je suis pas en train de te dire que les mecs doivent travailler 3 heures par semaine les sacoches devant. Ça, t'as pas besoin de travailler pour ça. Mais dans une période sous pression comme l'a été le début de seconde période, à un moment donné, je pense que tu dois être lucide et dire bon allez, ok, d'accord les gars. Et pendant 5 minutes, vous savez quoi, on prend plus de risques et puis on y reviendra après quand on aura trouvé d'autres solutions.
Voilà, appelez-nous, supporters marseillais, évidemment. 6e victoire consécutive pour l'Olympique de Marseille, la 2e dans la même semaine après avoir gagné à Angers.
Une belle série.
C'est pas forcément évident. Victoire face à Marseille, hein. Face à Bordeaux.
T'avais
dit quoi, toi?
Non, 12, 13 points, ils vont peut-être faire les 15.
C'est-à-dire les 15?
Bah, quand
ils ont fait le plus dur, en tout cas.
Quand il restait 5 matchs à la trêve, je dis ils sont parfaitement en mesure d'aller chercher. Après, comme je suis pas super fort en maths, c'était pour multiplier par 3, j'ai eu un peu de mal.
Ouais, t'as deux fois, tu les connais quand même. 3 fois 5, 15.
13 points, c'est
4 fois 3, 12.
Il faut que tu fasses comment?
Ouais, un nul.
Ah oui, c'est ça. Bon, okay.
4 victoires, nul.
34 points, l'OM.
Je vais prendre pas loin de 15, mais je pense qu'ils peuvent carrément faire les 15.
Bah, c'est grave,
il en reste que deux, là.
Faut toujours se méfier, mais ils ont fait le plus dur, en tout cas.
Il reste deux matchs, le déplacement à Metz et la réception de Nîmes, qui sont en grande souffrance.
C'est une équipe qui doit prendre. Maintenant, alors là, clairement. L'objectif, il doit être. Je me souviens, on avait parlé avec
lui
dimanche soir.
C'était là, ouais.
Il était un peu inquiet à ce moment-là. J'ai dit attends, le calendrier comme il est là, et vu ce que vous affichez, ce que vous montrez, à la trêve, si tu les prends, les fameux 15 points, et je ne sais plus quel était le total que ça faisait, je ne m'en souviens plus, mais je pense que tu peux aborder la deuxième partie de saison.
Tu peux virer.
Très, très confort, où tu peux même te permettre des faux pas qui ne t'empêcheront pas de sortir du podium. La Ligue 1 fonctionne, parce que après, en fonction du nombre de points qu'il faut pour faire podium en fin de saison, je pense que tu peux être très positif quant à l'avenir de l'OM dans cette saison, vraiment.
Parce
que là, maintenant, l'objectif, il est 6 sur 6 sur les deux derniers.
Ils ont joué les matchs les plus durs de cette série.
Ah oui, parce que dans cette série-là, il y avait Lyon, il y avait ce match contre Bordeaux, il y avait du lourd quand même dans cette série-là. Donc là, vraiment, c'est très, très positif.
Marseille, 34 points. Il reste 2 matchs avant la trêve. Marseille peut virer à la trêve avec 39 points.
Voilà.
C'est un super total, hein, 39 points. Et je rappelle également que quand Marseille, en général...
À la trêve, tu fais podium obligatoire.
Voilà. Et c'est ça, en général, l'histoire dit ça. Sauf sous Bielsa. Daniel, sauf sous Bielsa en 2014, où Marseille, qui avait enchaîné 8 victoires consécutives, avait terminé 4e.
Écroulé ensuite.
J'ai pas le total, mais il s'en rapprochait, tu vois. Mais en général, quand Marseille, en tout cas, enchaîne 6 victoires consécutives, Marseille finit systématiquement sur le podium, voire 2e. Donc, et puis il y a un écart, hein, plus 6 par rapport à Lille avec 28 points, plus 7 par rapport à Rennes et Lyon. Hein. Lyon est déjà à 9 points, c'est important aussi. Hein,
mais bien sûr.
Qui finit bien en général. Lyon est à 9 points de l'OM.
Cette année, contrairement à 2014, ce qui suit est moins fort. Et Lyon, notamment, qu'on sentait à l'époque capable de revenir parce que l'équipe était
meilleure. Il y avait plus de certitude.
Là, c'est moins inquiétant. Moins inquiétant.
Samir au 32-16. Bienvenue, Samir.
Oui, bonsoir la team.
Bienvenue dans l'after avec Daniel et Pierre.
Alors,
vas-y.
C'est super intéressant parce que là, je vous entendais parler, mais effectivement, là, tu parlais justement des deux points en fait. Donc c'est les 6 points. C'est l'avance. C'était pour moi, c'était un match à 6 points.
Oh, t'es pas bon en maths aussi, j'ai l'impression. Là.
Ouais, non, mais je suis tout excité parce que bon, franchement, là, on a relégué le troisième à 6 points. Mais c'était un match à 6 points dans le sens où si sur le PAD, on pouvait se retrouver dans une baston entre la 3e et la 8e place. Et puis le deuxième point, c'est surtout c'est le travail extraordinaire que Villas-Boas a réussi à faire. Il a réussi à transcender toute une équipe. Justement, là, vous parliez de Bielsa. Ironie du sort, on fait une série de fous, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est le même état d'esprit. Sur le deuxième but, on voit le pressing qui a été fait. Et là, on voit tout de suite la patte de Villas-Boas. On s'enflamme un petit peu, mais je pense qu'il y a de quoi s'enflammer.
Non, mais là, tu peux. Regarde, là, t'es 5 points au-dessus d'un parcours de champion, là.
Non, et puis c'est pas s'enflammer. C'est pas s'enflammer parce que tu.
À 34, tu ferais un très bon parcours. T'es à 39. C'est très très bien.
Non, Daniel, et puis s'enflammer, ce serait si t'avais eu un parcours avec de la réussite ou avec non là tu vas le chercher avec tactiquement une équipe qui est beaucoup mieux organisée, un état d'esprit qui te laisse penser que ça ne s'écroulera pas comme ça. Donc c'est pas s'enflammer.
Ce Bielsa, messieurs, on a fait des calculs, Jérôme Thomas, Régie. Bielsa avait viré à la trêve champion d'automne avec 41 points.
Ah oui.
2 points de plus que l'OM si l'OM venait à gagner ces deux derniers matchs. Samir, tu penses que cette victoire était bon, pas décisive mais un tournant dans la saison marseillaise justement?
Alors un tournant, c'est difficile à dire parce que du coup ils restent quand même.
Donc ils sont mieux que quand il y avait Bielsa au niveau des points là.
Cet état d'esprit là, je pense qu'on est bien parti. Après, il reste quand même une deuxième partie de saison, mais moi j'ai confiance. Je pense comme tous les Marseillais, on a confiance en cet entraîneur là, en sa philosophie de jeu. Et en fait, c'est ça qui nous rassure, parce que du coup, il a quand même réussi à transcender des joueurs qui étaient limite invisibles l'année dernière. Donc, on peut parler de Payet, on peut parler d'Amavi. Je veux dire, pour moi, c'est des recrues, en fait. C'est des joueurs qui étaient là, qui étaient sur le terrain, mais qui n'avaient pas cette niaque-là, qui n'avaient pas. Alors, Sanson, je sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, Sanson est passé un cran au-dessus. Je trouve beaucoup plus intéressant cette année. On a eu que deux recrues, Benedetto et Rongier. Alors Rongier, je pense qu'on est tous d'accord que voilà, il a largement remplacé Gustavo. Mais les joueurs qui sont là, qui étaient là la saison dernière et qui étaient moyens.
Ah bah excuse-moi, mais Rongier c'est quand même une sacrée recrue, hein.
C'est une sacrée recrue, mais
au milieu de terrain, c'est quelque chose, hein, le travail qu'il a là-bas.
Non mais complètement, on le connaissait, je veux dire, c'était le capitaine de Nantes, enfin on connaissait un petit peu le joueur.
Ah mais il y a eu pas mal de doutes quand même quand il est arrivé, en plus il a failli pas venir à cause du Joker. Il est arrivé super tard.
Il fallait forcément une période d'adaptation pour plein de choses, pour plein de raisons.
C'est ça qui est incroyable, c'est la période d'adaptation qui a été réussie à merveille. Hein. Aujourd'hui, lorsque je le vois jouer, c'est un chihuahua. C'est le mec qui court partout, qui est infatigable et surtout qui est très très juste techniquement. Donc avec un groupe pareil, et encore une fois, le mérite revient à Villas-Boas, parce qu'il a très très vite, il est arrivé cette saison et très très vite, il a réussi à trouver son 11 type et à mettre même des joueurs comme Radonjić, donc qui était l'année dernière en doute, et même si aujourd'hui ça devient un joker de luxe.
Bon, a priori, le but lui était accordé d'ailleurs, hein, Radonjić. On pensait que c'était un CSC bordelais. Ça fait 3 buts en 3 matchs.
Pour lui, il avait besoin.
Je sais pas comment on juge un CSC alors. Parce que là, le ballon, il l'arrête, il change de trajectoire.
Si la balle va vers le but, et que si le mec est pas là, elle rentre quand même, c'est bon. Si t'as pas le mec, la balle ne rentre pas dans le but, là, c'est CSC. Là, si ça frappe pas le mec, elle va dans le but.
Oui, sauf qu'il arrête le ballon, donc la trajectoire est différente, et après, il la remet dedans, quoi, donc.
Oui, mais s'il est pas là, elle va dans le but.
Bon, tant mieux pour Radonjić, parce qu'au niveau stats, c'est top.
La règle qui est élaborée du CSC, c'est ça.
D'accord. Voilà.
Et qu'on y maîtrise parfaitement la règle élaborée du CSC.
Ouais,
très bien.
Exactement. Un peu plus que les calculs.
Moi, j'ai l'impression que l'algèbre.
Par exemple.
4 victoires, ça te fait.
5 fois 3
4, 15, mais c'est juste là, les deux matchs qui restaient.
D'ailleurs, je me suis planté en fait. Marseille en 4 victoires, ça fait 40 points max, ce serait un point de moins que Bielsa.
C'est toi là qui
avait terminé.
C'est toi qui m'as mis dans l'erreur aussi. Déjà, il m'en faut peu pour aller dans l'erreur des chiffres. Alors si en plus tu m'aides pas.
Tu me dis il y a 30 secondes que ce Marseillais-là peut faire mieux que Bielsa à la trêve.
Bah, c'est normal.
Il m'en faut, comment tu veux. On n'est pas sur des victoires à 4 points.
Daniel les avait déjà mis à 40 et il leur restait encore deux matchs à jouer. Ils finissaient à 46 la trêve.
Ouais, Daniel réclame la victoire à 4 points, en fait, tu vois. C'est ça l'histoire. Cher à Roland Courbis. Merci Samir. Excellente soirée à toi.
Juste, si je peux faire un petit dédicace.
Bien sûr, vas-y.
Il est Amiens, c'est mon frère, c'est lui qui m'a pris.
C'est dur, Amiens.
Voilà, il est supporter depuis 30 ans de l'OM, donc mon frère Mounir, voilà. Grand
big up
à lui. Voilà. Merci les gars.
Excellent soir à toi, Samir. Tu viens quand tu veux dans l'after. Tiens, Sofiane également au 32-16, supporter de l'OM, bien sûr. Salut Sofiane.
Salut, merci les gars.
Et bienvenue dans l'after. Bon, t'en as pensé quoi de ce match? Parce que moi, je rappelle quand même que pendant 20 minutes en première période, Marseille n'arrive pas à répondre à Bordeaux.
Oui, les 20 dernières minutes, il n'y arrive pas.
Et ça, bah, on n'en parle pas, on a tendance à l'occulter.
Écoute, moi, ce match me fait penser un petit peu, Daniel s'en souviendra sans doute, à un Marseille-Bordeaux sous Bielsa, où à l'époque, Daniel, je me rappelle, avait dit « c'est le football qui a gagné contre le néant ». Bon, à l'époque, ça avait fait jaser d'ailleurs, mais moi, ça m'a fait un peu penser à ça, le match de ce soir.
Bah, Willy Sagnol appréciera, il était coach à Bordeaux.
et ce qui se passe, en fait, 3. C'est que, bah, plus globalement, cette saison-là de Marseille, moi, pour moi, et c'est mon ami, que je salue, Aurélien, qui me le disait en message privé, qui me disait, en gros, que cette saison-là, c'est un peu un mélange entre la saison qu'on fait sous Bop et la saison qu'on fait sous Bielsa. C'est cette saison-là de l'OM. Alors, moi, je trouve, beaucoup de choses positives, effectivement. Donc, Villas-Boas, voilà, je suis agréablement surpris, je m'y attendais pas. Il y a des joueurs qui montrent satisfaction, je pense à Sanson, je pense à Rongier, bien évidemment, qui moi personnellement je connaissais pas trop ce joueur, et force est de constater que c'est pour le coup cette année, on a avec peu de moyens, on a fait un bon mercato. Et moi ce que je demande à voir au final, c'est que ce soir on vous sent Benedetto, qui était un peu qui est un peu indispensable dans la construction de notre jeu, et qu'on a toujours pas Thauvin dans l'équipe, donc en deuxième partie de saison, pour moi ça pourra être que mieux. Et au final, quand vous regardez le parcours de l'OM, on a la grosse défaite au Parc des Princes, le 4-0, mais finalement, on a un vrai parcours. Dans une saison où il n'y aurait pas le PSG, on jouerait le titre. Bon, cette année, il y a le PSG, donc on peut considérer qu'on sera derrière, mais vraiment, le parcours est super, super vraiment impressionnant de l'OM en sa première partie de saison. Moi, le seul bémol que je mets par rapport à Villas-Boas, mais c'est plus sur le long terme, je l'avais déjà dit en début de saison, c'est que cette année, il a tout son groupe derrière lui parce qu'il passe après Garcia. Et qu'il faudra voir ce que ça donnera, donc ce que ça pourrait donner éventuellement l'année prochaine, parce que malheureusement des équipes en Ligue 1 qui font la grosse saison et qui s'écroulent l'année d'après, on en a vu des dizaines.
Ouais, mais je comprends pas qu'il ait un management comme Garcia dans le un peu dans le conflit, etc. Ouais. Je pense qu'il est assez intelligent pour justement tenir un peu tout le monde.
Il est très protecteur.
Et créer un groupe. Non,
Ce Strootman,
avec
du dialogue, encore, etc.
La saison prochaine, n'y pensez surtout pas. Évitez-vous les mal de tête. Profitez de cette saison. Qu'on était beaucoup à voir plutôt bon œil pour l'OM, parce que d'abord il y a le nouveau management, la rupture avec l'ancien qui fait que forcément t'as envie de repartir de l'avant, que certains joueurs étaient revanchards, qu'il n'y a qu'un seul match par semaine, que la concurrence est un petit peu moins forte cette année, qu'il y a des équipes qui traînent, tu as quand même, on l'a dit, pas beaucoup de recrues, mais en tout cas une qui a été très bonne, et que au milieu de terrain, c'est là que sont tes meilleurs joueurs, eux avaient besoin de se racheter. Donc voilà, tiens-toi-en à ça. La saison prochaine, je veux bien faire deux secondes là-dessus, mais si tu vas jouer la Ligue des Champions et le championnat avec cette équipe, Villas-Boas ou pas Villas-Boas, t'auras peut-être pas de crise dans le vestiaire, parce que lui, c'est plutôt un mec qui ne fait pas ce genre de choses-là. Mais tu ne joueras ni le titre et tu feras quatrième de ta poule. Donc, mais n'y pensons pas. Essayons de penser à autre chose. Quel est le recrutement que pourra faire l'OM? Quel genre d'investissement ils pourront faire,
on verra bien, ouais.
Pour que ça n'arrive pas et qu'on ne soit pas obligé d'envisager la suite de façon négative. Mais on n'en est pas là. On est en décembre. Profitons de cette saison parce que l'OM joue vraiment super bien. Parce que l'état d'esprit est formidable, parce que la deuxième place, elle tend les bras à cette équipe, et qu'elle doit y arriver, et qu'elle doit faire, et qu'elle doit se retrouver en phase de poule de Ligue des Champions. Et après, qui sait si McCourt, il allonge l'argent, qu'il y a un recrutement qui est fait. Eh ben, peut-être que le scénario dont je parlais il y a deux minutes, il arrivera pas, et que peut-être que tu joueras pas pour la qualif dans la phase de poule, mais en tout cas, tu t'écrouleras pas en championnat. Parce que ce que toi, tu dis, c'est ça, c'est souvent l'équipe qui fait la belle saison, l'année d'après, les renforts sont mal faits, une augmentation de salaire mal gérée, une masse salariale, tu dis, on les connaît, les clubs français, ça gère toujours comme ça, ça finit toujours dans le mur l'année d'après. Bon, ben, souhaitons qu'à l'OM, ce soit bien géré, quoi.
T'as le droit télé également, record, tu le disais à l'instant, qui vont arriver dès l'été prochain. Sofiane, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, rapidement, non, mais je comprends totalement ce que dit Daniel. En fait, après, moi, j'en reviens à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que les dernières années, forcément, l'expérience, elle est là aussi. Moi, si l'année prochaine, à la même époque, en décembre 2020, on appelle pour dire Villas-Boas, c'est bon, démission ou quoi que ce soit, moi, je préfère. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on se concentre sur l'instant présent, mais c'est vrai que si c'est pour faire comme Swahili Bob, tu prends la deuxième place pour rien en faire au final. Bon, voilà, mais ça, à la limite, comme t'as dit Daniel, c'est plus aux dirigeants d'anticiper ça que à nous supporters.
Et surtout que les dirigeants, si t'es effectivement à 40 là, à la trêve, que tu vois que les 2-3 premiers matchs de janvier, la dynamique repart comme il faut.
Anticipe.
T'as vraiment de la marge pour anticiper. T'as vraiment de la marge pour essayer de mettre en place un recrutement intelligent, pour conforter Villas-Boas, pour certes gérer le podium qui te tend les bras, mais pour sérieusement penser à la suite, quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Parlons du match.
Non, les gars,
soir,
voilà. On va parler des joueurs et des joueurs marseillais, notamment.
De ce qui s'est passé ce soir. Finalement, on apprend ce soir quand même que Camara, dans les matchs importants, c'est lui qui joue 6. Cette semaine, oui, Villas-Boas.
Ça a été un vrai choix.
Ouais. Cette semaine, Villas-Boas nous a quand même dit, en défendant Strootman à mort, Strootman, c'est mon choix numéro 1 en 6, je suis très content de lui, machin. Arrive ce qui est un match important, suite à celui contre Lyon, qui était l'autre match important de la période, bim, il te ressort Camara en 6.
Alors, soit Alvaro était vraiment incertain et il voulait mettre Strootman en confiance parce qu'il savait que le petit Camara allait jouer derrière, sauf qu'à un moment donné, Alvaro est capable de jouer et là.
Ouais, il a voulu faire récaler à Strootman, sachant qu'il allait mettre sur le banc aussi, tu vois, c'est kalinothérapie version Villas-Boas peut-être.
En tout cas, c'est deux joueurs complètement différents.
On va parler vu
l'impact que peut avoir un Camara.
On va parler de Camara, on va parler de Rongier également, qui a enchaîné sa 10e titularisation.
Excuse-nous. Hein, on avait envie de parler de Camara.
Non, mais je veux dire au revoir à Sofiane.
Non, le truc, c'est qu'après, dans ces histoires-là, on a le problème qu'on voit souvent dans nos clubs, c'est que t'as un jeune joueur comme Camara, qui, je crois, à peine le match contre Lyon s'était terminé, au moins dans deux interviews, il est venu dire que lui, son truc, c'était défense centrale. Tu veux pas juste être content d'être titulaire à l'OM, de jouer la deuxième place.
Je l'avais même pas vu ça. Il s'est plaint.
Il s'est pas plaint. Il a dit.
Non, il s'est pas.
J'accepte
pas
le choix du coach, voilà, mais je préfère jouer en défense centrale.
C'était pas la plainte. C'était le fait de dire. Mais okay, non, mais ça part peut-être d'une bonne intention.
Oui,
c'est
une réponse sur une question.
On l'entend trop souvent dans.
C'était pas Rabiot qui refusait de jouer 6, tu vois.
À l'arrivée, tu sais ce que ça donne dès que la période. Si le mec il insiste et il le met dans les grands matchs là, dès qu'arrive une période un peu moins bonne pour l'OM, d'un coup ça tiraille et si t'allais à l'étranger pour jouer réellement à ta place et ça finit toujours par foutre un petit peu la merde. Et comme on sait qu'il a toujours été un petit peu attiré vers l'étranger, non, reste à l'OM là, c'est bien. Si tu joues la Ligue des Champions l'année prochaine, dis que t'es polyvalent, que tu peux jouer derrière ou en 6, et au contraire à l'entraînement bosse pour être aussi un super 6.
Bosse tes
automatismes.
C'était une interview écrite ou...
Non, c'était oral, j'ai entendu.
C'était oral. Ouais,
moi j'ai lu ça.
Mais je me dis, c'est quand même étonnant, quoi. Déjà, t'es un jeune joueur, on mise sur toi, t'es à l'OM, t'es bon.
Attends, Daniel.
Ça dépend la question.
Pose la question, tu préfères jouer 6 ou jouer en défense centrale?
Ouais, voilà.
Moi, je jouerai où le coach me mettra. Mais c'est vrai, je vous réponds honnêtement, je préfère jouer en défense centrale.
Comment il a parlé, quoi.
Ah, il répond juste, peut-être, tu vois. C'est pas le mec qui régulièrement dit chaque semaine, je veux jouer en défense centrale.
Ok, mais. Je sais pas, je me dis que si t'es joueur pro jeune, t'as la chance de jouer dans un club de la dimension de l'OM. Je sais même
c'est
pas.
C'est quoi la réponse idéale?
En termes de club, tu réponds.
J'ai pas de préférence.
Peu importe où on met, je me donne à 100%.
J'ai pas de préférence. Je veux dire, pour moi, c'est même une chance. Et en défense centrale, et quand je joue aussi, c'est même à l'entraînement. Fais-moi faire une séance.
C'est
je fais tout pour être un super 6 et un super 4. Ou 5. Mais non, il est plutôt 4, lui. Bon, voilà. Tu vois.
Non, mais.
C'est même pas avoir de préférence. Je préfère être sur le terrain, quoi.
Sofiane, t'es d'accord ou pas?
Ouais, on est dans une époque où les mecs affichent, tu vois, les préférences, les machins.
Vas-y, Sofiane.
Non, mais Daniel a raison là-dessus. Moi, je comprends pas. C'est vrai que.
Après, je ne peux pas reprendre à lui. C'est juste une remarque d'ordre général. Oui.
Non, mais bien sûr. Mais en l'occurrence, tu prends cet exemple-là. Mais c'est vrai que la sortie, elle est déplacée dans le sens où, en plus de ça, quand t'es 6, pour moi, à mon sens, dans le football moderne, t'es beaucoup plus exposé que derrière. Enfin, entre guillemets, donc, dans le cœur du jeu. Donc. Pour moi, c'est une sortie qui n'avait pas lieu d'être. En l'occurrence, il joue à l'OM. Il est jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à sa place. Donc
c'est pas une sortie. Il a répondu à une question. Faut pas lui faire un faux procès, effectivement, monsieur.
Non,
il a répondu à une question.
Parce que je veux pas que ça fasse procès. C'est juste.
Ouais.
Une
ouais
parce
non,
que
bien sûr.
Parce que pour l'OM, c'est top de l'avoir.
Mais lui aussi, je pense que
6 Strootman.
Je pense qu'il est très bien là aussi, hein, Stanley.
Non, mais tant mieux. En plus, il est encore bon.
Oui, bien sûr.
Des choses positives à l'OM, ils ont quasi tous été bons. Même à ma vie. Enfin, il a le mec
son premier but à l'OM en championnat.
Le même a été transfiguré quand même.
Ah ouais, il revient.
Premier but de ma vie depuis 4 ans et demi.
Il y a encore 2 mois, à chaque fois qu'on faisait boulet, le boulet c'était tout le temps lui. Quoi.
Ah oui.
Il y arrive.
Parfois, je l'ai vu monter avec Payet qui était en position d'arrière gauche.
Non, mais c'est là où tu vois.
C'est ce qu'il a dit, la vie, en cours cette semaine.
C'est là où tu vois l'impact.
C'est là que tu vois qu'on a un peu le problème numéro 1 pour un coach aujourd'hui. C'est pas le 4-3-3, le 4-2-3, le machin, le 6-là, les systèmes.
C'est l'investissement de tes joueurs.
Gave à longueur de journée. C'est De toute façon, on le sait, le foot aujourd'hui, franchement, il est assez primaire. C'est un foot de transition. Il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent en possession. C'est tu presses, tu contre-presses, t'essayes de récupérer et t'exploites bien le ballon. Donc, c'est un investissement collectif de tous. Bon, bah voilà. Quand Payet, il décide de s'investir comme il joue, bah, ça redevient un très bon joueur.
C'est un investissement individuel, surtout.
C'est ce qu'il a dit, mais lui, en conférence de presse cette semaine.
Ça redevient un très bon joueur.
À ma vie, il a dit.
Il aurait dû être toute sa vie, d'ailleurs.
À ma vie, il a dit, j'ai jamais vu Payet défendre autant dans ma carrière.
Mais voilà, mais ça, c'est, tu sais, c'est des phrases un peu anodines.
C'est dingue, il s'est marré, hein.
Mais c'est quand même, ça veut dire quelque chose.
Ça va bien le vexer, hein, Payet, d'ailleurs.
En plus, c'est vrai, t'as raison.
Non, parce qu'il le sait. Il le sait.
Quand même, hein.
Ouais, c'est vrai. Mais quand tout le monde a envie, tout le monde se dépasse, évidemment, ah bah ça c'est beaucoup mieux.
Tout, mais c'est tellement logique, on devrait même pas être surpris et même pas le dire ce soir.
On le voit tellement, Pierre.
Mais c'est la base, juste la base.
Quand t'enchaînes, parce qu'en plus, tu peux enchaîner des victoires et des défaites, mais quand tu vois, par exemple, ce qu'a fait Saint-Etienne la semaine dernière, enfin cette semaine, et ce qu'ils font aujourd'hui.
On va en parler.
Tu dis, les gars.
Ouais, mais ça, c'est.
Les gars, non, quoi.
Ça, c'est l'histoire des clubs de Ligue 1 qui en mettent 4.
Tu peux perdre, tu peux gagner, j'ai aucun problème. Mais tu peux pas faire comme si t'avais gagné la Coupe du Monde. Et, ah, bah c'est bon, non, mais on peut gagner Pénard maintenant, il n'y a pas besoin.
Kevin est avec nous, 32-16, supporter marseillais.
Tu peux pas faire ça. Et ça, on le voit tout le temps.
Bienvenue dans l'after, Kevin, supporter de l'OM. T'étais au stade.
Salut Pierre, salut Daniel.
Bon, toi, tu voulais faire une évaluation d'ailleurs.
Ben moi j'étais au stade et en fait j'ai vu un gros Valentin Rongier déjà.
Ouais,
je trouve qu'avant de parler de Payet, avant de parler des autres, je pense que c'est un joueur vraiment de classe internationale.
Ah, carrément déjà.
Ah oui. Pour moi c'est la plaque tournante de l'équipe. C'est il récupère, il couvre défensivement les autres postes. Il soulage Sanson, il soulage Payet, il soulage Sarr. Il arrive à combler à chaque fois les manques et tout. Pour moi, oui, c'est un joueur de classe. Aujourd'hui, c'est un joueur qui peut être en équipe de France sans problème pour moi.
Il y a du monde. C'était sa 11e titularisation à Marseille d'affilée, là.
Après, je trouve que Bordeaux, c'est quand on leur a donné le ballon qu'on a été dangereux. On a fait un peu la même seconde mi-temps qu'à Angers. On leur a laissé le ballon, on les a pressés assez haut. Et au final, ils font deux grosses erreurs défensives, hein, mais on a été présents à la relance, chose qu'on n'a pas fait en première mi-temps.
Pierre, sur Rongier.
Moi, je me fie sûr. Hein, je pense jamais qu'on va revenir dans le match. Et sur un pressing, sur le corner, bon, il faut une erreur défensive et derrière une erreur de relance quand on les presse. Donc, je trouve qu'on fait pas un excellent match, mais on fait une très bonne deuxième mi-temps. Encore avec 25 tirs.
C'est les gars.
Je suis serein pour, en me disant que les deux derniers matchs avant la trêve, on va les gagner. Donc, je pense qu'on va. La deuxième place, je pense qu'elle sera largement faisable pour la seconde partie de saison.
Elle est déjà largement faisable, d'ailleurs.
Bien sûr.
Je voudrais qu'on parle de Rongier, déjà, quand même, parce que tu parles de ce milieu de terrain qui est arrivé, on le rappelle, après le Mercato. C'est arrivé le 2 septembre.
Juste après.
Ils en avaient vraiment envie de Rongier. Au départ, il fait 3 matchs sur le banc. Il entre en jeu et ça fait 11 matchs d'affilée, il est jamais sorti.
Non, c'est très très bon joueur. Je suis d'accord avec tout sauf la notion internationale, parce que je trouve que c'est un peu rapide. Il y a notamment beaucoup de monde à son poste qui sont un cran, deux crans, trois crans au-dessus de lui. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est une des pièces maîtresses aujourd'hui du milieu marseillais. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il permet à Payet, à Sarr, quand il joue un cran au-dessus, à Sanson de se libérer un petit peu de la tâche défensive, même s'ils le font comme par hasard beaucoup plus facilement.
C'est un précieux,
c'est complet, c'est complet,
généreux, comme tu dis, complet, capable de bien
sens
frapper,
du
de bien passer, un QI football développé. Mmh. Ça c'est ce que j'aime dans notre formation, des mecs comme ça. Il y en a un qui joue en Italie, un peu dans le même modèle, je sais pas, moins fort, mais c'est Vertout.
Mmh. Nantais aussi, hein.
Exactement. Mmh. Ça, c'est le genre de joueur. Si t'en as plus des comme ça en Ligue 1, le niveau de notre championnat va augmenter.
Kevin, tiens, je voyais aussi.
Sanson,
ouais, il fait un très bon match aussi aujourd'hui.
Très bien aussi.
Non, après, ceci dit, je voulais juste rajouter que la notion internationale est un peu hâtive pour moi, mais pourquoi pas un jour, s'il continue de progresser dans un club comme l'OM, pourquoi pas, ouais.
Mais la notion d'international, quand on voit qu'il y a Nzonzi qui est capable de jouer en équipe de France, vous pensez pas qu'elle va leur arranger à niveau de Nzonzi?
Si, il a très bien. Ouais. Là-dessus, je te rejoins.
Il a pas son expérience encore.
Si c'est un comparatif de ce genre-là, oui.
C'est pas les mêmes profils, c'est dur à comparer au niveau profil, c'est pas du tout les mêmes joueurs.
Ben oui, l'autre c'est plus grand, plus costaud, machin.
Bah, c'est aussi, il y a aussi une capacité à conserver les ballons techniquement et une expérience en plus. Mais
moi, je préfère le
Rongier les conserve très bien hein, les ballons.
Oui, mais pas pareil. Pas pareil. Quoi.
Mais ouais, mais comme en France, dès qu'il y a un problème de taille, on est un peu choqué.
C'est vrai qu'on est sur un QI football là,
non,
développé.
Non, c'est pas vrai. Sur ce poste là,
la taille en France, ça prend des chances. N'Golo
Kanté, il joue tout le temps. Un Tolisso est pas très grand.
Je te dis que
Griezmann est petit aussi.
Il a besoin de muscles.
on joue avec la même équipe que l'année dernière, avec Rongier en plus pratiquement. Hein, donc moi je trouve que quand même c'est, je sais pas, moi au stade on voit pas le même match qu'à la télé et franchement je vois un ton de travail.
Ah non, mais attention, on est d'accord avec toi, il a été énorme aujourd'hui. On est d'accord avec toi.
Moi, ce que dit Pierre, c'est qu'il s'est encore un peu tôt pour l'équipe de France.
Moi je le vends depuis l'année dernière et quand il est arrivé à l'OM, j'ai trouvé tout de suite que c'était une super recrue. J'étais très content pour Marseille.
Merci Kevin.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir mis 32-16 à très vite dans l'after, voilà. Bien sûr. Tiens, monsieur, je rappelle quand même que
c'est parce que je connais son agent, mais non, c'est parce qu'il est bon.
Qui a dit ça? Toi, tu fais les. D'accord.
C'est amusant de dire ça.
Tiens, je rappelle également que Marseille, en 2020, va se déplacer à Lyon, à Lille, à Saint-Etienne, à Rennes, à Montpellier, à Bordeaux.
Mais même oui, si
bah, non, mais les gars, ça va compter.
Même si tout le monde. Là, ça ne sera pas d'être deuxième s'ils gagnent les autres.
Oui,
avec le match là qu'ils vont avoir.
Ils ont 8-9 points d'avance à la trêve.
Je te dis qu'ils peuvent. Ils peuvent même se. Non, mais leur avance sera assez confortable pour. Et puis, de toute façon, ça ne veut pas dire. Je te signale qu'avant la grosse période, là, pareil, on disait ça va être terrible. D'abord, il y avait eu le match contre Lille, là, qu'ils avaient gagné à l'arrache. On disait que la période allait être compliquée, bah ils ont gagné les matchs. Hein, donc.
Ils ont battu Lille, Lyon, Toulouse, Brest, Angers et Bordeaux. 6 victoires consécutives pour l'OM. Voilà, on parle de Bordeaux dans un instant, bien sûr, avec 2 supporters bordelais. Jean Aurel sera avec nous dans un instant dans l'after, bien sûr. Bordeaux, première défaite depuis un mois et demi pour les joueurs de Bordeaux. Hein. Fin d'une série de 5 matchs sans défaite. Que peut espérer Bordeaux cette saison et en jouant ainsi, en tout cas. On en parle avec Daniel et Pierre, bien sûr. Appelez-nous 32-16, le hashtag RMC Live. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. On revient bien sûr sur la victoire marseillaise. 3 buts à 1 face aux Girondins de Bordeaux. Marseille, 6e succès consécutif. 2e de Ligue 1. 6 points d'avance sur Lille. 3e de Ligue 1. Et reste pour les Marseillais avant de virer en 2020 Metz et Nîmes. On parle de Bordeaux à présent, messieurs. Fin de série pour les Girondins de Bordeaux qui restent sur 5 matchs sans défaite. Avec Jean Aurel, supporter bordelais, habitué de l'after. Salut Jean Aurel.
Bonsoir à tous.
Salut Jean Aurel.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, cette défaite bordelaise? Est-ce que ça s'analyse juste à la boulette, notamment, de Pablo et de Costil, ou est-ce que Marseille était supérieur?
Non, c'est bien plus profond. Et puis ce soir, Marseille est supérieur. Je vais être obligé de dire ça, mais voilà, on a vu des joueurs qui s'investissaient beaucoup plus intensément, notamment sur la récupération du ballon, sur le pressing. Et puis on a pris une leçon de football sur la deuxième mi-temps. Je pense que Bordeaux est complètement KO debout après l'égalisation. Et puis après, tu subis. Alors, tu sors un peu la tête de l'eau à partir de la 80e, on va dire. À peu près ça. Et encore, on peut parler de la première mi-temps. Costil, quand même, fait un arrêt déterminant, il me semble, à la fin de la première mi-temps, qui évite l'égalisation.
Mais bon, j'ai pas senti un gros caractère. Tu vois, il y a eu une bonne période, mais sinon, globalement, tu as une volonté de rentrer dedans, d'être à la hauteur du.
Parce que là, la bonne période.
Telle soirée, quoi.
La bonne période bordelaise, elle est plus dans la cohérence de ce qu'ils font tactiquement en première période. Voilà, pour voilà. Subir sans craquer.
Mais pas tant
et puis ensuite utiliser le
duel, dans la volonté, la détermination.
Non, ils ont utilisé le temps faible marseillais après leur pressing.
Ils ont bien collé. Adli s'est un peu foutu entre les lignes. Il a négocié 2-3 ballons. D'ailleurs, pas aussi bien que ça, que ce que j'ai entendu. Bon, il a mis un but important, c'est vrai. Mais oui, dans ce moment-là, d'ailleurs, c'est le moment où le match est devenu plutôt ennuyeux.
Ouais, parce que Marseille ne pouvait plus physiquement imprimer le rythme.
Le bon rythme et à bien presser. Puis quand ils l'ont fait, c'est fini. Bordeaux a reculé et ils n'en sont pas sortis. Parce qu'on dit Pablo, sa relance foireuse, machin. Mais attends, quand il fait la relance foireuse.
Non, c'est Otavio qui fait.
C'est Pablo qui.
Dans le but.
La passe en retrait. C'est Pablo à Costil qui amène le corner.
Non, Daniel, il parle du deuxième but.
C'est Otavio. Voilà. Le pressing que font les Marseillais à ce moment-là.
Oui, ça dure depuis un quart d'heure et c'est intense.
Il a presque même pas le temps de la mettre la sacoche quand il reçoit le ballon.
C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné,
ils sont bousculés. Tu vois, on peut voir le côté négatif, c'est de dire bon ben mets la sacoche pour te débarrasser du pressing. Je veux bien l'entendre, mais le côté positif, c'est que t'as une équipe qui fait un tel pressing. Ils arrivent à 2 sur lui, ils sont en train de le cerner, ce qui fait qu'il est obligé de balancer devant lui, et c'est là qu'il fait la boulette. J'ai plus envie de féliciter les Marseillais pour dire bah, bravo, grâce à votre pressing.
Ah bah de toute manière,
vous avez même empêché de mettre une sacoche, il a pas pu, quoi.
C'est
ça aussi qui est intéressant à mettre.
Non, mais oui, je te rejoins parce que les ballons ont été récupérés haut en seconde période, notamment les 20 premières minutes où Bordeaux a cédé. Après, il y a rien sur ce geste-là précisément. Il y a rien qui lui empêche Daniel de mettre un coup du pied à 40 mètres. Honnêtement, il se déchire complètement. Il est tout seul.
Il peut certainement la lever plus, mais il la rate. Mais s'il la rate, c'est aussi parce que les mecs arrivent vite. Ben quand même.
Non, sur ce fait précis là, non, je suis pas d'accord.
Ben, en vrai,
non, parce qu'il peut, non, il peut, il peut mettre du pied facilement. Et
lui, Costil peut aussi la balancer d'ailleurs.
Ouais, Costil peut la balancer aussi. Avant, pour voilà, balancer, je sais plus qui la met en retrait aussi. C'est peut-être Pablo qui la met, qui s'appuie au milieu aussi. Je sais plus.
Jean Aurel.
Oui,
et ça n'enlève rien au pressing marseillais, Daniel, je suis d'accord. Pardon.
Bon, c'est une fin de série pour Bordeaux. Bon, on rappelle que Bordeaux restait sur une victoire éclatante, mais face à Nîmes, hein, qui est en perdition totale en cette fin d'année 2019.
Ouais, c'est pas grave, 6-0.
Tu vois, Nicolas, Daniel parlait d'engagement. Ça fait quelques matchs maintenant qu'on voit des sauts de concentration, qu'on voit un petit peu un manque d'engagement aussi sur certaines phases de jeu. Ce que fait Pablo, ça fait un moment qu'on le voit. Il a des sauts de concentration énormes. Alors quand il nous sauvait souvent la baraque, à ce qu'il fait sur cette relance dans l'axe, c'est complètement c'est lunaire. Là on le paye cash. On le paye cash face à une équipe qui joue le haut de tableau. Hein. Alors bon, c'est pas très très grave encore au classement pour les Girondins de Bordeaux. Maintenant, j'ai très très peur que les problèmes qui soient hors du terrain, commencent à rentrer dans le vestiaire.
Ouais.
Notamment, on commence à parler transfert autour de Paulo Sousa. Alors, j'espère que ça va pas commencer à gangréner l'humeur du vestiaire, vraiment pas. On parle d'une saignée au mercato hivernal.
Non, ça, la deuxième partie de saison de Bordeaux, elle est beaucoup plus compliquée à envisager que Marseille. Parce que, toi, tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire Bordeaux. Bah, évidemment, je te dis, le top 5, il est largement envisageable avec Paulo Sousa et les joueurs qu'il a. Sauf que si au mercato, il se passe des trucs, on lui enlève des joueurs, les rumeurs continuent à tourner autour du club, on sait pas trop ce que veut faire l'actionnaire. Oui, ça peut déstabiliser l'équipe et le groupe et le club peut perdre un ou deux matchs et d'un coup se retrouver 8e, 9e, 7e, toi, dans ces positions-là. Là, c'est plus compliqué d'envisager Bordeaux. L'OM, c'est au moins, on sait que c'est net, quoi.
On a la chance d'avoir Pierre Ducrot autour de la table, qui est aussi.
C'est toi qui le dis, attends, c'est n'engage-moi toi.
C'est pas à vous que je vais le dire, à Mercato hivernal et même à Mercato tout court, c'est pas à la dernière seconde que ça se prépare, donc les téléphones doivent commencer déjà à sonner. Bon, si tu fais des mauvaises performances sur les derniers matchs là, qui arrivent, c'est pas si grave que ça. C'est Strasbourg et Rennes. Tu reçois Strasbourg, donc tu peux estimer peut-être faire un résultat, bien finir ta première partie de saison. Mais c'est ce qui va se passer là entre décembre et février qui fait très très peur là ici en Gironde en tout cas.
Ouais, ce qui va se passer en interne, tu veux dire chez vous?
Oui, tout à fait.
Ouais, parce que c'est une prochaine.
Parce que le mercato d'hiver, effectivement,
moi, prochaine.
Ça changera pas grand-chose. Le mercato d'hiver, tu fais jamais grand-chose en janvier, quoi. Les vrais bons coups en janvier, c'est
non, il n'y a pas des bons coups. Il a peur justement de voir des joueurs partir.
Ah, des départs, pardon.
Et oui, c'est ça. J'avais pas compris. Il y a un gros déficit à Bordeaux qui va être annoncé.
Ouais.
Il y a des signes.
C'est possible.
Comme quand tu vois Cafu qui commence à rejouer, parce que je pense que Paulo Sousa anticipe aussi ces problèmes-là à venir. Quand tu vois Cafu qui était à la cave depuis un an et demi, même peut-être plus, qui commence à rejouer, bon, qui est pas mal, hein, d'ailleurs, on peut dire ça. Quand tu vois Thomas Bazic qui commence à refaire surface, alors certains te diront voilà, Paul Sousa prépare la deuxième partie de saison, mais tu peux te dire aussi que c'est les départs de Sabali qui arrivent, c'est Jovanovic aussi qui a peut-être parti en Angleterre. Camano, enfin voilà, c'est quand même pas neutre comme.
Alors Camano, ça fait 3 ans qu'il doit partir, t'as l'impression,
ouais,
en fait.
Il
est toujours là.
Là, ça va partir.
Ça va partir.
Oui.
Merci Jean-Raël d'avoir appelé au 32-16.
Merci Jean-Raël.
Merci à vous tous.
Alors, Nicolas Trono dit sur Direct Studio, Bordeaux, c'est la définition de la faiblesse de la Ligue 1. Bon, c'est un peu sévère. L'OM est la définition de ce qu'il suffit de faire pour être sur le podium, bloc, équipe et pressing. C'est un peu réducteur quand même, non?
C'est réducteur, mais c'est. Pour être sur le podium en Ligue 1, oui, il a raison, quoi. État d'esprit. Après, l'OM a aussi la chance d'avoir 2-3 joueurs de talent, dont
oui, bien
un
sûr,
qui avait complètement disparu et qui maintenant est revenu à un bon niveau. Et ça change tout quand t'as un mec comme Payet qui décide à jouer et à être performant.
Et à défendre.
Voilà, ça change tout. On a parlé de la bonne recrue. Même Sanson, l'année dernière, n'était pas terrible. Je le défendais beaucoup parce que je sais qu'intrinsèquement, je sais qu'il a beaucoup de qualité,
ouais,
ce joueur.
Ouais,
non, mais je l'aime beaucoup pour ça. Mais il fallait quand même dire qu'il était pas bon.
Les gars.
Au début de la saison, ça n'a pas tout le temps été simple, mais là, en ce moment, il est très très bien. Voilà.
Et ce Marseille-là est plus agréable à regarder que le PSG. Dans l'investissement collectif.
Dans
l'investissement collectif.
Dans les intentions, oui.
C'est pas
la même chose.
Non, mais si, quand tu vois le match,
non, c'est pas la même chose.
C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faut être tout à fait honnête là-dessus.
Très maladroit.
Le problème, c'est que l'OM démarre la saison dans le brouillard le plus complet. En crise, pas bien, au sortir d'une saison horrible, et que donc tu es dans un effet de surprise de ce qui est en train de se passer.
Ouais,
et c'est très agréable à voir parce qu'en plus, t'as un état d'esprit qui est formidable et que t'as des joueurs qui avaient disparu qui reviennent à un bon niveau. Donc, tout ça te donne quelque chose une sensation de frais. Le PSG, non, si tu vois hier le dernier quart d'heure, ok, c'est un super dernier quart d'heure. Sauf qu'avant, tu as eu 75 minutes complètement pourries. Et en fait, ce qui dérange avec le PSG, c'est que aimerais voir beaucoup plus et qu'ils te déçoivent par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Que tu as des attitudes
Mais c'est ça, surtout, Daniel.
Non, mais tu as des attitudes horripilantes. Et se satisfaire juste d'un mec qui est extraordinaire, qui te met un coup franc lucarne, alors qu'avant il t'a saccagé à peu près tout le match par son état d'esprit, par son arrogance déplacée, par tout ce qu'il est. Ouais, c'est exaspérant. Donc oui, de ce point de vue-là, l'OM c'est plus agréable.
Oui, voilà,
mais tu n'attendais pas grand-chose de l'OM, alors que tu attends toujours beaucoup du PSG. Quand tu attends beaucoup de quelqu'un, t'es toujours un peu déçu quand il t'offre pas son maximum.
C'est difficile de comparer, honnêtement. Alors Daniel a dit beaucoup de choses. Je suis pas d'accord avec tout, mais en partie, certaines attitudes, oui, bien volontiers. Après, t'as un pressing hier de Montpellier qui est énorme pendant une première période, qui s'écroule,
Pierre. T'es obligé de dire qu'ils sont horribles.
Ouais, mais sauf qu'ils sont horribles
dans l'attitude, c'est dégueulasse.
Ouais, mais sauf qu'ils sont horribles en restant en vie. Ce que j'allais te dire. Ce que j'allais te dire, c'est que si Montpellier fait exactement le même pressing contre une équipe de l'OM, je suis pas persuadé que l'OM en sorte indemne. Donc c'est compliqué de comparer parce que techniquement, t'as le PSG, même en étant horrible, qui arrive à sortir de situations d'un pressing qui est énorme.
Pardonne-moi, je pense qu'effectivement, le PSG est trois fois supérieur à toutes les équipes de Ligue 1.
Justement, c'est donc pour ça que quand on dit que l'OM est plus agréable à regarder.
Paris,
on peut pas comparer aussi vite.
Paris revient parce qu'il y a un rouge pour Mendes et que Paris joue contre
Nice. Mais pas que. Non, après le match, donc c'est pas que moi, et ben il est de 3 tons en dessous par rapport à la première période.
Donc ça veut dire que n'importe quelle équipe qui va presser le PSG va être à la rue. Ah bah dis donc, c'est vachement
Je t'ai pas dit ça, je te dis justement que le PSG avait traversé ce pressing, alors sans être flamboyant, mais justement sans dégâts.
Parce que c'est Montpellier. Si c'est une équipe en Ligue des Champions, ils sont menés 3-0.
C'est autre chose. Si c'est le Barça, si c'est le Real ou si c'est quelqu'un d'autre, peut-être, et encore que le Real, ils ont réussi à s'en sortir.
Ça a été un miracle.
Ouais, mais apparemment ils font des miracles souvent.
Il va y avoir tout le temps des miracles.
Est-ce que Marseille est plus plaisant en ce moment? Pour moi, tu ne peux pas comparer là-dessus.
L'intention, l'investissement des joueurs.
Les intentions, exactement.
Voir un Mavi plus volontaire également. De voir un Sanson qui travaille, un Rongier qui travaille dans la
main. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Sinon, Montpellier, contre Paris, avec les intentions qu'ils ont eues, Montpellier, ils auraient gagné 4-0 à ce moment-là parce qu'ils avaient de bien meilleures intentions que le PSG. Mais sauf que ça ne dépend pas que de ça, un match de foot.
Je comparerai pas les deux matchs, en fait. Je compare le comportement général depuis le début de la saison.
Sur les intentions, Marseillais, je te rejoins. Sur le reste, beaucoup moins.
J'ai l'impression qu'on voit une équipe, vraiment, à Marseille.
Mais bien sûr, qui a un état d'esprit irréprochable. Et sinon, il serait pas là deuxième, bien sûr.
Voilà donc pour ce Marseille-Bordeaux.
Je maintiens que je préfère voir l'OM et que
est-ce que je préfère voir l'OM ou le PSG? Je regarde les deux.
Ne pas voir que pendant 75 minutes.
J'ai encore le droit de préférer ce que je veux.
Non, mais Pierre, je veux dire, aujourd'hui, il y a une unanimité. Donc tu es le seul. J'ai absolument tout lu, tout entendu.
Unanimité
à dire que le PSG a été exaspérant pendant 75 minutes.
Exaspérant.
Alors là, je comprends rien.
Les attitudes. J'ai commencé par te dire, mais tu ça t'arrange d'oublier peut-être ce que je t'ai dit en premier.
Ah non, j'ai mal compris.
Non, je t'ai dit en premier. Et tu vas t'en rappeler. Les attitudes. Je rejoins Daniel. Effectivement, les attitudes.
Et le jeu aussi.
Tu me rejoins moi, tu veux dire.
Non, parce que Daniel a parlé des attitudes.
Le jeu collectif inexistant.
Des attitudes dans le jeu. Des attitudes. Oui, mais parce qu'il y a eu un énorme pressing de Montpellier. Et que c'était compliqué de s'en sortir.
Mais ça fait 6 mois qu'ils jouent mal, le Paris.
Il n'y a pas eu un consultant ou un journaliste hier qui a été capable de dire, sauf Olivier Talaron, sur la chaîne, sur Canal, sur le diffuseur, capable de dire, en première mi-temps, au bout de 35 minutes, je ne sais pas si Montpellier va pouvoir continuer à presser comme ça tout un match.
C'était
une donnée importante. Bien sûr qu'il y a besoin de le dire. Parce qu'effectivement, quand tu presses, mi-temps comme ça, t'en payes les conséquences derrière.
Donc on parle de la type, ça déjoue.
La victoire de Reims, Saint-Étienne tout à l'heure également. Celle de Nantes, bien sûr.
C'est une équipe Ligue des Champions. J'ai pas dit ça.
Messieurs, je vous rappelle que l'After Tour se poursuit. Demain, l'after avec Daniel, notamment Gilbert, Florent Gautreau, Frédéric Piquion sera à Lyon, bien sûr à la brasserie Le République.
On dit pas la brasserie de la République, on dit au REP.
Ouais, à le REP, pardon. Ouais, ah, institution lyonnaise, bien sûr. Hein, le République, le REP. De 21h à minuit, bien sûr, et ouvert à tous, venez nombreux. Hein, voir en vrai l'after, l'équipe de l'after, bien sûr. Ils seront réunis pendant 3h. Nous revenons dans un instant. Parler de la défaite de Saint-Etienne, hein, qui a été brillant contre Nice en milieu de semaine. Et patatras aujourd'hui face au Stade de Reims. A tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo. J'ai énervé mon Pierrot.
Ah non, non, ah, non,
j'ai rarement vu aussi énervé.
C'est animé.
Tu m'as postillonné dessus.
Non, c'est pas sur la veste. C'est pas vrai, pas du tout.
On est partout.
Je ne postillonne pas.
Tiens, preuve que ça va à Marseille, Flo Germain, notre correspondant à Marseille, nous dit que Villas-Boas, en conf, et son staff ont dit qu'ils vont organiser un match contre les journalistes. Voilà, il a annoncé.
D'accord. Sympa.
Pour le coup, tout va bien.
Très bien.
Sauf s'ils veulent les tacler, mais voilà. Voilà pour Marseille, donc deuxième de Ligue 1. Mais si on parle de Saint-Etienne. Et de Reims, évidemment, qui a battu Saint-Étienne aujourd'hui, 3-1, c'était en fin d'après-midi. Saint-Étienne qui en avait mis 4 à Nice, hein, 4-1 en milieu de semaine, et qui en prend 3 aujourd'hui. Daniel, je t'avais écouté dans l'after en milieu de semaine, t'avais loué justement l'investissement global, collectif des Stéphanois. Et 4 jours plus tard,
dit, visiblement,
lumière éteinte.
Visiblement, tu fais un match, tu te crois que t'es arrivé, et puis le match d'après, tu prends une claque, ou parce que t'as fait, comme a dit Puel, 3 matchs en 8 jours, t'es pas capable d'assurer. Bon, bah, ok, très bien. Donc, tu passes d'un match où t'as des attitudes très positives à un match où tu fais plus rien. Bon, après, Reims, c'est plutôt une bonne équipe, qui était pas pourtant dans une forme phénoménale, mais qui joue bien quand ils jouent les gros, généralement. Ça a l'air de les booster un peu plus. Bon, bah, voilà, je trouve que c'est un petit peu dur de prendre le score qu'ils ont pris aujourd'hui. Et ça fait que Saint-Etienne n'est pas trop proche finalement du.
On se pose toujours la question finalement.
8e de Ligue 1, 25 points.
Après, tout le monde ne peut pas y être. Hein. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que comme c'est super serré, à chaque fois que tu as une équipe qui perd,
tu as
l'impression qu'elle a raté une occasion. En même temps, ils ne peuvent pas tous y être.
C'est comme le manège, tu sais, la peluche que tu penses attraper à chaque fois. Tout le monde passe, tout le monde pense attraper.
Rennes, quand ils vont gagner le match en retard.
La queue de Mickey.
Quand ils vont gagner le match en retard, Rennes. Ils sont quasi à hauteur de l'OM là.
Enfin, pas si Rennes gagne son match en retard, Rennes aura 30 points, ils seront à 4 points de l'OM et 3e, seul 3e avec 2 points d'avance sur Lille.
Mais voilà. Il y a 3 semaines, on n'aurait pas dit ça. Le problème avec Saint-Etienne, pour revenir à Saint-Etienne, c'est que tu sais jamais si c'est.
Le génie breton a retrouvé son fluide.
Si c'est psychologiquement qu'ils n'arrivent pas à aborder les matchs ou qu'ils jouent mal les matchs ou si c'est même physiquement parfois tu les sens. Moi aujourd'hui, je les ai trouvés émoussés physiquement. Alors est-ce que je me trompe et que c'est plutôt dans les tranches
moisies.
Ouais, peut-être. Et puis il y a eu pas mal de blessés. Ils ont enchaîné les matchs avec ceux d'Europa League. Donc je me demande s'ils accusent pas aussi un peu le coup et qu'ils arrivent pas à enchaîner deux fois dans la semaine quoi.
Ça ils arrivent pas.
Ce qui ne doit pas être une excuse, mais qui n'est pas une réalité.
Match en 8 jours, c'est beaucoup trop.
Ça peut être une réalité, Daniel. C'est bien pas bien. C'est autre chose.
La réalité ou pas bien. Question que je te pose. Est-ce que
compris?
J'ai l'impression. Même toi, quand tu jouais vous avec tes collègues footballeurs, jouer 3 fois en 8 jours, est-ce que c'était?
Non, tu dois pouvoir le faire.
3 fois en 8 jours, compliqué.
Tu dois pouvoir le faire. Et en même temps, j'ai pas envie de comparer avec mon époque quand on était en Ligue.
Parce que de toute façon, on a rentré dans la tête des gens que c'était compliqué pendant des années. On a entendu le discours. Pendant des années.
Non, je pense pas, Daniel, que les joueurs se cachent à ça ou n'aient pas envie de jouer trois fois dans la semaine. Les coachs, parce que c'est un
mec qui vient
d'Angleterre,
dire ça.
Oui, mais tu sais ce que ça cache derrière, Daniel, tu le sais très bien. C'est que il veut du monde. Non, mais il veut du monde et c'est aussi un message qui doit passer pour ne pas se contenter. Il veut du monde. Il veut évacuer du monde. Ça, je te rejoins.
Mais il veut du monde de qualité.
Non, il veut évacuer du monde. Et ça, il l'a dit souvent. Mais il veut aussi du monde de qualité autre que ce qu'il a.
Là, il va falloir qu'il fasse un peu plus. Il va falloir qu'il fasse des packages Leader Price.
C'est que pour évacuer, ça va être compliqué. Mais bon, bref.
Faut qu'il fasse des gros paquets de Noël. Hein. Il en met 3, 4 en même temps pour faire des lots.
Je pense que c'est quand même une réalité qui pour Saint-Etienne, fait. Enfin, c'est la difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Et je pense qu'il y a un réel problème physique.
Il y a des mecs dans l'effectif, tu t'as même oublié qu'ils existaient.
Ah ouais, non, mais c'est clair.
Tu penses à qui, là?
Mais je crois qu'il y a encore Lacroix.
Ah, oui, c'est possible.
Lacroix, le grand, là.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, lui, on le voit plus.
Un défenseur.
Et je crois que t'as.
Non, mais Pierre, il l'a souvent dit, hein, Puel, qu'effectivement,
je suis allé chercher vraiment
sur lui
qu'on avait tous oublié.
T'as raison.
Vraiment, il y en a d'autres, hein.
Il veut se débarrasser de, je pense, 7-8 joueurs. Ça va pas être facile.
Et tout, mais c'est un effectif, mais comment on a pu constituer un effectif comme ça? C'est pas possible.
Mais comme Monaco l'a fait, comme d'autres l'ont fait. Tiens, le classement.
Ça veut pas dire que si d'autres l'ont fait, c'est bien.
Ben non, bien sûr. Théo Lacroix est toujours là.
Ouais, oui.
Voilà.
Léo Lacroix d'ailleurs. Saint-Etienne, je vous le disais, 8e avec 25 points. Rien n'est perdu pour les Verts, hein, évidemment.
Hein. Non, mais rien n'est
perdu. Les gars, je vois plus sur le classement quand même parce que c'est dingue. Regarde, si on part du principe que Marseille, voilà, une avance confortable et va s'envoler ou confirmer sa deuxième place.
Après, t'as des états de forme et des séries qui montrent que oui, tout peut arriver en Ligue 1. Mais, pardon, ne serait-ce que les 9 points qui séparent l'OM de Lyon,
je pense que à la trêve, ça va commencer à être significatif.
Oui, parce que l'OM donne en plus des certitudes.
Je pense que l'écart ne va pas se réduire d'ici la trêve. Il peut même éventuellement s'agrandir parce que les matchs de Lyon sont un peu plus durs que les deux de l'OM. Donc ça, dans la course à la deuxième place, à la troisième place, ça peut devenir significatif quand même.
On a Lille, on a Rennes, on a Bordeaux, Nantes, c'est le classement. Lyon, Saint-Etienne, on peut aller jusqu'à Reims, Montpellier, 24 points. Monaco, 24 points, qui revient à Monaco, hein, qui fait son entrée dans le top 10, mais qui a reculé là ce soir. T'as 9 équipes pour la troisième place.
Ceci dit, après,
maintenant, après Monaco, les gars,
Monaco,
t'as pas 9 équipes pour la troisième place.
C'est l'affaire. Mais là, il reste qu'une seule place, hein, la troisième.
Mais mis à part Monaco, t'as une certaine logique, entre guillemets, respectée dans ce classement maintenant.
Après,
ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 jours.
Après, arrêtez de nous parler 4e et 5e place, ça, on s'en fout, ça ne sert à rien.
Parce qu'on la joue pas. Enfin, on la joue, mais on ne sait pas la jouer.
Ça ne sert à rien du tout. Ça ne mène nulle part, si ce n'est à une humiliation et des fessées déculottées. Donc tu laisses tomber. Le podium, c'est pas que ça mène en termes de résultats très loin.
C'est jackpot.
Mais c'est l'oseille.
Eh oui,
donc
eh oui,
au moins c'est important.
Tu fais nouveau droit télé là. Tu fais troisième, tu prends, je sais pas combien, 50 millions d'euros en droit télé. Tu prends les 25 de Ligue des Champions.
Là, t'envoies le chèque-os là.
Là, tu prends 90 millions d'euros entre les droits télé, Ligue des Champions et Ligue 1.
Là, t'es bien. Là, t'es pénard. Donc, podium, je comprends que ce soit un objectif.
Tu revends ton club un an après, valorisation.
Voilà.
Tu vois, tu vends trois joueurs.
On sent l'homme du business.
Entre temps, t'as pris ce
l'homme de King Street.
Là, on sent.
Non, moi, ça va être intéressant.
On sent le libéral.
Si ça va être réinvesti ou pas.
Qu'est-ce qu'il dit? Si mon père écoute, mon Dieu. Yannis, 32-16. Nous a appelé, supporter des Verts. Salut Yannis.
C'est la honte.
Salut.
Bonjour. Ultra-libéralisme.
Bravo.
Il y a libéral et ultra-libéral, Daniel. Il y a une nuance entre les deux. Salut Yannis.
J'étais juste qualifié de libéral, mon vieux, pas d'ultra.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu expliques cette défaite, là, ce grand écart entre ce qu'on a vu face à Nice et ce qu'on a vu pour les Verts face à Reims aujourd'hui?
Moi, aujourd'hui, j'en veux à l'entraîneur, à Puel, même s'il a fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé chez nous. Mais c'est dommage d'avoir fait turnover, en fait. Je comprends pas. On a fait un bon match contre Nice. Il y avait un mouvement sur le terrain à Oulu. On les fait pas jouer, on les met remplaçants.
Ah, ils étaient fatigués.
Ils étaient fatigués, mais alors on n'a pas d'ambition. C'est toutes les années la même chose, en fait. On a les moyens d'accrocher le bon wagon. Et moi, je suis en colère, en fait, puisque toutes les années pareil, on rate le coche. On voit une équipe comme Marseille qui a pas un gros effectif. Et moi, je vois la même équipe tous les week-ends. C'est rare qu'à Marseille, on fait du turnover. Nous, on gagne cette semaine contre Nice 4-1 et on trouve le moyen d'enlever 4-5 joueurs. C'est ça que je comprends pas, en fait.
L'année dernière, tu l'avais accroché, le bon wagon, c'était bien.
Eh oui, quand même.
C'était quatrième, on aurait pu finir sur le podium.
Ah oui, le bon wagon, c'est Ligue des Champions.
Ah oui, Ligue des Champions. Voilà, toi, tu veux la Ligue des Champions.
Ah, mais là, c'est. Ouais, mais c'est. Enfin.
Non, mais c'est possible. C'est équipe au niveau quasi homogène.
Vous n'aurez pas le gros chèque cette année.
Non, je pense que le bon wagon pour Saint-Etienne, c'est.
Au mieux, vous avez l'Europa League et la fessée des culottés qui va avec.
Mais quand on voit ce qu'on a fait cette année en Europa League, vaut mieux pas la jouer. Vaut mieux laisser notre place.
Ouais, mais mets-toi sixième.
Gentleman.
Ouais, laisse ta place.
Ouais, mais alors tu peux pas vouloir celle en Ligue des Champions.
Ah non, mais il sait qu'il peut pas l'avoir.
Non, mais on n'a pas d'ambition. On tirait dans ce club. C'est toutes les années pareil.
Ouais, je te sens un peu fataliste là, Yannis.
La journée était dure pour lui.
Ouais, je sais, t'as l'air. Mais t'as un petit accent marseillais en même temps, c'est bizarre. Enfin, je crois avoir décelé un.
Parce que le
accent provençal.
Le match était en début d'après-midi et entre temps, t'as pas eu un bon dîner, un truc, t'as pas essayé de zapper, te divertir. T'as pas regardé un bon film pour te changer les idées.
C'est énervant. Tu as fait tourner l'effectif. Alors, je comprends pas, en fait. On a joué mercredi, on joue dimanche. Si on veut faire la Coupe d'Europe, normalement, on a l'effectif.
Ah oui.
Ben oui, voilà. Oui. Justement, ça s'est pas bien passé, donc.
Merci Yannis.
Le chien qui se mord la queue.
Merci Yannis d'avoir appris.
Courage
Yannis. Hein.
Ne lâche pas.
Rappelle-nous pour des nouvelles dans l'after, bien sûr. Quand tu veux, bien sûr. Excellente soirée à toi.
Pas le gaz tout de suite, hein, quand même.
Merci.
Non, mais tu vas plus.
Arrête. Il est au bout du rouleau.
Oui, bah, il se dit qu'encore une fois, une saison.
Soin de lui, donc je lui dis.
Tu sais que t'as de l'espoir et qu'au final.
Au contraire, je lui dis de se calmer.
Tu lui parles de gaz, tu lui files l'idée presque. C'est terrible. C'est fou, il a pas pensé à ça, le mec.
Les gars, vous êtes tordus. Je prends soin de lui.
C'est nous qui sommes tordus, tu sais.
Détendu.
Voilà donc, Nantes a battu Dijon 1-0, une petite victoire nantaise. Mais Nantes enchaîne. Nantes enchaîne à la Nantaise, à la Gourcuff en tout cas. Hein. Encore une victoire par un but d'écart. Nantes 6e, 26 points. Vous voulez en parler, messieurs? Non, on s'en fout, pas. Non.
Non, c'est pas qu'on s'en fout. Moi, j'ai vu une partie du match. Pas tout, parce que je commentais la première ligue.
Dimanche, il y a d'autres matchs. Hein.
De quoi?
C'est facile de zapper maintenant, le dimanche à ce temps-là.
Ouais, moi je bossais même.
Forcément,
donc
dimanche 17h, tu as pu te voir.
J'ai commenté juste avant Leicester.
Contre, alors justement, j'allais en parler.
Leicester, c'est bien.
Leicester, huitième victoire consécutive. 4-1 à Aston Villa, doublé de Jamie Vardy, deuxième derrière Liverpool après 16 journées. Donc là, ça devient vraiment intéressant.
Ouais, ouais.
Et 6 points d'avance sur City, battu par United hier. Leicester, donc, qui refait presque la même chose. Si Liverpool n'était pas aussi fort cette saison, Leicester serait un candidat pour le titre. Si on dit ça.
Ah bah oui, avec un parcours comme ça, oui, forcément.
C'est quasiment le même parcours quand ils sont champions il y a 4 saisons.
Ouais, forcément. Non, mais c'est une équipe qui est très très agréable à voir jouer
avec un coach.
Oui, avec un coach.
Brendan Rodgers.
Comme les autres.
Brendan Rodgers.
Ouais. Non, mais ça marche, ça fonctionne bien parce qu'il y a pas mal de là aussi de certitudes. T'as un buteur exceptionnel devant qui rate quasiment rien. Ouais, je crois que qu'il a marqué 9 buts sur les 7 dernières rencontres. Là, il les enfile comme des perles. T'as un milieu de terrain qui est travailleur avec un Ndidi, mais qui est aussi bourré de talent avec un Madison qui techniquement est pour moi cette année un des tout meilleurs de Premier League. Il a une vision de jeu, une intelligence de jeu, ce garçon assez épatante. T'as derrière une défense costaud qui tient la route. Puis alors en plus en face cet après-midi t'as une équipe d'Aston Villa qui offre le premier but avec un défenseur central qui est claqué.
Champion d'Angleterre.
Ouais, ça va être compliqué d'aller les chercher hein, parce qu'ils sont
Arsenal,
ils sont
Tottenham
là.
Ça va être dur.
Arsenal ça va être chaud, Tottenham ça va être chaud.
United ça va être chaud aussi.
Ouais. Ces énormes.
Ouais, mais sauf que
il y a des cycles. Hein.
Ils vont pas en Ligue des Champions. En Angleterre, c'est pas grave parce qu'ils ont tellement d'oseille à l'intérieur que la Ligue des Champions c'est secondaire pour eux.
Ouais.
Leur championnat qui prime.
C'est vrai.
Oui.
Messieurs, tiens,
nous qui rêvons d'Europe et qui n'y brillons pas.
Peut-être qu'on va jouer l'an prochain en Europa League, United, Tottenham, Chelsea, Arsenal.
Ah, tu veux dire que t'as pas suffi cette année avec Alexandria, Cluj. Tu veux te faire taper par du plus gros.
Tu connais, tu sais
est-ce
que
tu trouves que c'est
que la reluisant. France en général se relève en général.
Est-ce que
plus le mur est haut, plus elle est vaillante.
Est-ce que tu trouves que c'est plus
gros. Le coq n'est jamais aussi fort que les pieds est-ce dans la merde, disait Coluche.
C'est vrai.
Tu penses que c'est plus beau de se prendre une fessée de culottée par un petit ou par un grand?
Par un grand.
Ah bah ouais.
Je pense que
c'est moins infamant. Tu penses que c'est par Luj ou Alexandria, c'est terrible.
C'est meilleur.
Non, et puis tu sais quoi, ce que dit Nico, je suis pas loin de penser la même chose. C'est que.
Le coq, les pieds dans la merde.
Non, ouais, c'est que je pense que tu ferais pas le même genre de match contre ces équipes-là. Je suis quasiment sûr.
Ah, bah c'est bien, ça fait 10 ans que ça dure, mais si vous voulez croire que c'est pas tout le temps comme ça, bravo. Hein.
C'est presque 10 ans que ça dure, le RMC Poker Show dans un instant, bien sûr. C'est la fin de l'after avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Mais il reste, Daniel, il prend ma place pour le RMC Poker Show. Bien sûr, tes invités, tu sais ou pas?
Ouais. On arrive avec Moundir, bien sûr, dans un peu plus de 5 minutes maintenant.
Allez!
Tu écoutes pour progresser ou t'as complètement arrêté le poker, toi?
Je me suis remis, figure-toi. Tu m'invites plus.
Mais écoute alors.
Demain, l'after à Lyon, bien sûr.
Au République aussi. Mardi, on sera en
et mardi,
une semaine à Lyon.
Lyon-Leipzig. Excellente soirée à tous. RMC Poker Show dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.